grandir ensemble.
Il est 11h à Paris, 9h en temps universel. Merci d'écouter RFI. Dans 10 minutes, priorité santé avec Caroline Paré, mais d'abord, toute l'info. Bonjour Paul Lonsin-Spinelli.
Bonjour Juan, bonjour à tous. Les représentants ukrainiens et russes ne s'étaient plus rencontrés pour des négociations depuis près de 3 ans et c'était déjà à Istanbul. Dans une demi-heure, doivent commencer des pourparlers entre Moscou et Kiev. Donc dans la ville turque, les présidents Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sont absents et dans l'est ukrainien, la population place peu d'espoir dans cette rencontre en Turquie. La Roumanie, elle, élit son nouveau président, ce sera dimanche. Le candidat pro-européen Nico Jordan réunissait ses soutiens à Bucarest hier, ville dont il est le maire. L'ex-premier ministre tchadien Succès Massra enlevé ce matin à son domicile. Ses proches indiquent à RFI que plusieurs hommes en armes sont venus l'interpeller pour le transporter vers une destination inconnue. Point d'interrogation aussi sur le motif de cette arrestation. Et puis la Belgique interrompt son processus de sortie du nucléaire. Après des heures de confusion depuis hier, un rendez-vous majeur se dessine sur la rive européenne du Bosphore pour la première fois depuis le printemps 2022. Quelques mois donc après le début de la guerre en Ukraine, des délégations ukrainiennes et russes vont se rencontrer sous médiation turque à Istanbul. La réunion doit démarrer dans 30 minutes. En amont ce matin, s'est tenue une autre rencontre entre Ukrainiens, Turcs et Américains. Pourtant, à quelques kilomètres du front ukrainien, la population semble éprouvée par la guerre. À Kramatorsk, par exemple, dans la région de Donetsk, les habitants rencontrés par Emmanuel Chaz ont du mal à voir une issue au conflit. Reportage.
Au centre-ville de Kramatorsk, sur la place de la paix, des habitants profitent du coucher du soleil au moment où tout le monde s'interroge sur un éventuel cessez-le-feu. Pour ces habitants qui vivent la guerre au quotidien, des négociations semblent impensables. Yana, commerçante, confie être revenue dans la ville après avoir trouvé refuge en Pologne et malgré la proximité du front.
Nous sommes d'ici. Nous sommes partis en 2022, mais nous sommes revenus l'année suivante. Là où j'étais, je me sentais encore plus mal qu'ici. Beaucoup d'entre nous sont revenus et beaucoup, beaucoup d'enfants.
Des enfants qui ne peuvent être scolarisés qu'en ligne, car ici, toutes les écoles sont fermées. Et Yulia, une amie de Yana, ne s'attend pas à un arrêt des combats rapides.
Il n'y aura pas de trêve, ça n'arrivera pas, c'est ce que disent nos soldats. On ne peut pas faire confiance à Poutine. Jusqu'à ce que ce monstre meure, rien ne se passera.
Pour Sergi également, la vie loin de Kramatorsk est impensable.
Je suis policier depuis 22 ans. Lorsque la guerre à grande échelle a commencé, je suis revenu d'Europe et je suis venu ici pour m'engager. Je vis là depuis 2 ans maintenant, sans quitter cette ville, et je ne pense pas qu'il y aura une trêve. Mais quand nous serons victorieux, ce sera différent.
À Kramatorsk, les habitants sont pragmatiques. En attendant une paix qui semble bien lointaine vue d'ici, ils vivent au jour le jour, souvent au son des explosions, et bien loin des tractations diplomatiques. Emmanuel Chaz, Kramatorsk, RFI.
Plusieurs réactions à ces tractations en Russie où Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky sont absents aujourd'hui. Pour le chef de l'OTAN, Mark Rutte, Poutine a fait une erreur en envoyant une équipe de second rang. Pessimisme de mise également pour la chef de la diplomatie de l'UE, Kaya Kallas, qui estime qu'il est clair que la Russie ne veut pas la paix. L'Union européenne qui suit aussi de près l'avenir politique de l'un de ses membres, la Roumanie, qui choisira son nouveau président dans 2 jours, dimanche. L'un des candidats représente l'extrême droite, Georges Simion, qui fait justement les yeux doux à la Russie. Son adversaire pro-européen Nico Jordan, maire de Bucarest, réunissait justement ses soutiens hier dans la capitale roumaine. Notre envoyé spécial Muriel Paradon y était pour RFI.
Distribution de tracts à la sortie du métro en plein cœur de Bucarest. Les partisans de Nico Jordan tentent de convaincre les indécis d'aller voter pour leur candidat, avec parfois des accrochages avec les passants. Mais pour Radu, il faut continuer à mobiliser. Nico Jordan représente, selon lui, une chance de changement pour la Roumanie.
Il a fondé un parti qui veut lutter contre la corruption, qui défend la méritocratie, l'état de droit, pas la politique qu'on a eu l'habitude de voir avant dans les Balkans.
Nico Jordan est aussi, contrairement à son adversaire de l'extrême droite, un candidat pro-européen. Et pour Anna, 36 ans, c'est primordial.
Il représente l'Europe et nos valeurs de la liberté.
La Roumanie part de loin et on a beaucoup avancé par rapport à quand j'étais petite. Je ne veux pas revenir à l'ère du communisme ou connaître la censure et la dictature. L'Europe, c'est ce qu'on veut.
L'Europe et la Roumanie qui doivent continuer à soutenir l'Ukraine, comme le préconise Nicu Jordan, à l'inverse de son adversaire. Mihai, un avocat de 40 ans, est pour.
Soutenir l'Ukraine, c'est soutenir la Roumanie. Car si l'Ukraine s'écroule, après ce sera le tour de la Moldavie et après ce sera à nous.
Selon ses militants, voter à la présidentielle pour le candidat pro-européen, c'est tout simplement un choix pour la démocratie. Muriel Paradon, Bucarest, RFI.
50 personnes sont mortes au petit matin dans des bombardements israéliens sur Gaza. C'est la défense civile palestinienne qui l'annonce. Les frappes ont touché des habitations du nord de l'enclave. Ce sont des dizaines d'hommes en armes qui l'ont enlevé à son domicile à l'aube. Succès Masra, l'ex-premier ministre tchadien, a été interpellé puis amené vers une destination inconnue par des membres des corps de défense et de sécurité. D'après les informations transmises par plusieurs de ses proches à RFI, on ne connaît pas en revanche la raison de cette arrestation. À la page des bongos au Gabon continue de se tourner. L'ex-président ainsi que sa femme Sylvia et son fils Noureddine ont été libérés et sont arrivés à Luanda cette nuit. C'est ce qu'a annoncé la présidence angolaise ce matin sur ses réseaux sociaux. Après avoir été renversé en août 2023 par un coup d'état mené par l'actuel dirigeant gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema, Ali Bongo avait été assigné à sa résidence. Bauxite, diamant, graphite. En Guinée, la junte continue sa reprise en main du secteur minier. 51 licences ont été retirées à plusieurs dizaines d'entreprises. Pour la plupart, elles ne développaient pas ou n'exploitaient pas les concessions qui leur avaient été attribuées. Amadouba dirige l'ONG Action Mine Guinée. Selon lui, l'opération n'a rien de surprenant, mais il appelle à revoir les critères d'attribution des licences minières.
Je pense que cette opération est un pas que l'actuel gouvernement veut marquer dans le cadre, bien sûr, de l'assainissement du cadastre minier et à libérer des places pour permettre aux investisseurs sérieux qui veulent mettre de l'argent avec de l'engagement. La plupart des entreprises, souvent, n'ont pas la surface financière requise pour pouvoir mettre en valeur les permis pour lesquels elles ont souscrit. Pour éviter cela, et d'ailleurs c'est l'une des exigences de l'ITE, l'ITE exige aux États de durcir les conditions d'attribution des titres miniers. Il faut qu'on sache, dans un registre public, à qui on donne les titres. Quelles sont les personnes physiques en chair et en os qui sont derrière les entreprises? C'est pour éviter que des personnes proches des différents régimes ou encore des personnes politiquement exposées ne puissent en fait souscrire pour l'obtention des titres miniers dans le cadre de leur politique de développement de l'industrie extractive.
Amadouba, joint par Alix Sibédu. Même si le cessez-le-feu signé il y a 6 jours tient toujours entre l'Inde et le Pakistan, pas de trêve en revanche dans la bataille des discours. Le ministre indien de la Défense a déclaré ce matin que le prêt $1 milliard accordé par le Fonds monétaire international au Pakistan sera utilisé pour financer le terrorisme. Une enveloppe débloquée il y a une semaine par le FMI dans le cadre d'un programme d'aide existant et que la banque de l'État pakistanais confirmait avoir reçu mercredi. Et puis la fin du calendrier approchait, mais le Parlement fédéral belge a choisi un virage à 180 degrés. Sa chambre basse, la chambre des représentants, a décidé d'annuler la sortie programmée du nucléaire, un processus voté avec une loi de 2003, texte qui prévoyait pourtant que la Belgique mette à l'arrêt ses réacteurs et cesse de construire de nouvelles centrales en 2025. Pierre Benazet.
En Belgique, c'est une page d'histoire vieille d'un quart de siècle qui se tourne. En 1999, pour la première fois depuis sa création, le parti écologiste entre dans une coalition gouvernementale à une condition, l'abandon du nucléaire. Le temps de finaliser le programme, la loi est votée en 2003. Elle prévoit, à l'horizon 2025, la fermeture des 7 réacteurs belges dans les 2 centrales nucléaires, une en Wallonie, une en Flandre. Mais quelques mois plus tard, les écologistes quittent le gouvernement fédéral et les gouvernements suivants n'auront plus besoin d'eux pour former des coalitions majoritaires. Ils s'empressent de mettre la loi de sortie entre parenthèses, ce qui avait été prévu en cas de menace pour l'approvisionnement énergétique. L'accident nucléaire de Fukushima en 2011 ravive l'opposition au nucléaire civil, mais les menaces de coupure de gaz par la Russie au moment de l'invasion de l'Ukraine sont passées par là. La relance du nucléaire est devenue une priorité d'un des partis de centre-droit désormais au pouvoir. La loi de sortie du nucléaire est donc abrogée et la Belgique rejoint donc l'Italie, les Pays-Bas ou la Suède qui ont aussi décidé de renouer avec les centrales nucléaires. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI.
Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Il est 11h10 à Paris, 9h10, temps universel. Tout de suite, priorité santé avec Caroline Paré.